phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
11h21, avant d'aller plus loin, si vous voulez aller voir Andrea Bocelli en spectacle, je vous offre des billets. C'est au 98985 par texto. N'oubliez pas de me laisser votre prénom, votre nom de famille et j'ai votre numéro de téléphone, bien entendu. Bon. Monsieur Page,
oui.
Parlons du mystérieux caveau Chase,
oui, parce
que tu as visité.
Oui, et on est à travers nos éphémérides du mois d'avril. Alors, je te ramène presque 200 ans en arrière. Nous sommes en avril 1820. Et là, à ce moment-là, le gouverneur de l'île, Lord Combermere, a réussi à obtenir de la famille Chase, parce qu'il faut savoir que la famille Chase ont un caveau à Christchurch, pour les gens qui connaissent la Barbade, et je sais que tu y es allé. Donc, on est dans le sud de l'île, un peu en dessous de Bridgetown, qui est la capitale de la Barbade. Donc, on est dans cette province de Christchurch. Il y a un cimetière local. La famille Chase, ils ont un caveau. Il y a à ce moment-là 7-8 personnes, membres de la famille, qui ont déjà été inhumées au caveau. Donc, en ce avril 1820, on est en fait le 18 avril 1820, Lord Combermere demande l'ouverture exceptionnelle du caveau. Donc, et tu vas comprendre le pourquoi. Il arrive sur place et là, il constate la dalle qui permet d'avoir accès, parce que le caveau, on s'imagine, c'est une sorte de chambre souterraine qui a été aménagée. Donc, il l'approche, la dalle qui permet d'accéder à l'entrée, l'unique entrée du caveau. Il y a toujours des scellés autour. On brise les scellés, on lève la dalle de pierre, on pénètre à l'intérieur. Et là, l'étonnement de tous les magistrats et les témoins qui sont là, les cercueils ont été déplacés. Et cette histoire-là va devenir éventuellement l'une des énigmes les plus lancinantes de tout le dossier du surnaturel et du paranormal. Il faut savoir que le caveau Chase, il a été construit en 1806 par une famille qui s'appelait les Walround. Dès l'année suivante, ils y ont fait déposer le corps d'une parente, une dénommée Thomasina Goddard, et ensuite le caveau a été vendu à la famille Chase. Donc la famille Chase vont mettre, évidemment, dès qu'il y a des décès, il y a une première inhumation en 1808, une petite fille du nom de Marie-Anna qui est là. Ensuite, le 6 juillet 1812, Dorcas Chase, une adolescente, est mise au caveau. Et on dit que Dorcas Chase aurait été amenée au suicide par son père, qui Thomas Chase, qui était un riche planteur de la région, mais un véritable despote, autant pour ses esclaves que pour sa famille.
Et juste la trame qui amène à ça, on peut comprendre qu'il était un despote, là.
Voilà. Et on comprend que le 9 juillet 1812, donc quelques semaines plus tard, le père Chase décède, on le met au caveau. Jusque-là, toujours rien d'anormal. Mais à l'inhumation suivante, le 25 septembre 1816, en ouvrant le caveau, au grand étonnement de tous, les cercueils qui s'y trouvaient avaient tous été déplacés. Certains étaient à l'envers, d'autres étaient littéralement tête bêche. Tout avait été déplacé. Alors, évidemment, on s'est dit, peut-être que des esclaves, des vandales ont pénétré, parce que le père Chase était détesté des esclaves de l'île. Peut-être le père Chase, à cause de cet aspect vindicatif, des gens sont entrés dans le caveau, ont déplacé les tombes. Et puis, on replace les tombes, on referme le caveau, et à l'inhumation suivante, 17 novembre 1816, on amène un enfant dans le caveau, Samuel Brewster, qui est décédé en bas âge. Au moment d'ouvrir le caveau, là encore, les tombes se sont déplacées. Inutile de dire que cette histoire de tombe qui se déplace dans le caveau va se répandre comme une traînée de poudre à travers l'île. On est superstitieux. Est-ce qu'il y a des forces maléfiques à l'œuvre dans le caveau Chase? Et c'est là que lors d'une dernière inhumation, le 7 juillet 1819, cette histoire-là est arrivée aux oreilles de Lord Combermere, le gouverneur de l'île. Il veut être présent à l'ouverture du caveau. On ouvre le caveau. Encore une fois, les cercueils ont été déplacés. Et je te fais remarquer que les cercueils ont tous été déplacés depuis l'inhumation du père Chase au caveau. Alors certains, la rumeur voudrait que c'est sa fille, Dorcas, qui avait été inhumée peu de temps avant, amenée au suicide par son père. C'est comme si son esprit à elle refusait que le père Chase soit là quand même. Un gros cercueil de plomb qui avait demandé 6 hommes pour être amené au caveau, mais tous les cercueils ont été déplacés. Alors Lord Combermere, lorsqu'il voit qu'encore une fois la magie ou la sorcellerie s'est opérée, il décide de faire mettre du sable, faire replacer les cercueils, met du sable sur le plancher, fait refermer le caveau et demande à ce que le sceau, son propre sceau du gouverneur, soit mis dans le ciment qui scelle la dalle. Et ce qui nous amène à ce 18 avril 1820, lorsque Lord Combermere obtient une autorisation de la famille Chase pour ouvrir le caveau une dernière fois pour voir si ça s'est reproduit. Les scellés sont toujours en place, on ouvre la dalle, les tombes se sont déplacées, mais le sable n'a pas été déplacé, ce qui exclut la possibilité de vandales qui pénétraient dans le caveau ou encore que le caveau ait pu être inondé.
Toi qui as mis ton nez là-dedans, là.
Je n'ai pas trouvé d'explication. Écoute, j'y suis allé, je peux te dire qu'on est à 1 kilomètre de la baie d'Oystin et on est à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'idée que le caveau ait pu être inondé, parce que c'est la seule explication, c'est que le caveau s'inondait d'eau, déplaçait les tombes, l'eau se retirait. Mais à un moment donné, le caveau n'a été fermé que pendant 42 jours. Et à chaque fois que le caveau a été ouvert, il y a eu une inspection minutieuse. Il n'y avait aucune trace de moisissure, aucune trace d'inondation. Les cercueils eux-mêmes n'étaient pas inondés. C'était des cercueils pour la plupart en bois. Ils n'étaient pas imbibés d'eau. Je te l'avoue, Mathieu, je n'ai pas trouvé d'explication. Si l'on accepte l'IRIC, c'est amusant parce que, par exemple, c'est tellement difficile à comprendre cette histoire-là qu'il y a un sceptique aux États-Unis, un type qui s'appelle Joseph Nicol, il dit « Ouais, c'est vrai que le caveau est vide. » Je t'ai montré d'ailleurs des photographies que j'ai prises. Il dit « C'est vrai que le caveau est vide. C'est vrai que visiblement, on a fait enterrer les tombes ailleurs. Mais rien ne prouve que des cercueils aient jamais été dans le caveau de Chase. Et à mon avis, tout ça est une invention des francs-maçons. » Le type s'était pas donné beaucoup de recherches parce que moi, quand j'étais à Bridgetown, il m'a fallu à peine 20 minutes pour trouver les registres d'inhumation qui montrent bel et bien les cercueils avaient bel et bien été placés aux dates que je t'ai mentionnées. Et j'ai retrouvé des dessins originaux, un de 1819, au moment où on a fermé le caveau en mettant le sable et en faisant mettre les sceaux du gouverneur. Et j'ai trouvé un autre dessin original de 1820 fait par les magistrats qui montre dans quelle façon les tombes avaient été retrouvées. Donc, l'idée que les cercueils se déplaçait aux grandes dames probablement de Joseph Nicol aux États-Unis est un fait indiscutable. Les cercueils se déplaçaient. Comment se déplaçaient-ils? Pourquoi se déplaçaient-ils? J'en ai pas la moindre idée et je n'ai pas trouvé d'explication rationnelle. Une chose est certaine, à l'ouverture du caveau en 1820, lorsqu'on a constaté que les cercueils s'étaient encore une fois, une énième fois déplacés, le révérend Orderson, qui dirigeait la paroisse, a ordonné à ce que les cercueils soient retirés du caveau et soient inhumés ailleurs dans le cimetière. Et depuis 1820, le caveau Chase est vide. Voilà.
C'est spécial, ça fait
une histoire tout à fait incroyable.
Il nous reste quelques minutes pour nous parler de l'écrasement d'OVNI d'Aurora.
Mais oui, écoute, je t'ai amené un petit plongeon dans l'histoire. Je t'ai amené un article de presse.
Mais là, ça date, ça, là, le 1897.
C'est le Dallas Morning News du 19 avril 1897 que tu tiens dans tes mains. Et ce jour-là, on y annonce. Il faut savoir qu'on est en 1897 et aux États-Unis, il y avait une espèce de vague de dirigeables fantômes qui parcouraient les États-Unis. Des gens rapportaient avoir vu des espèces de cigares volants. Et là, voilà que le journal nous apprend que au matin du 17 avril 1897, l'un de ces dirigeables fantômes aurait frappé un moulin à vent à Aurora, au Texas.
Okay.
La machine, en frappant le fameux moulin, ça se trouve sur les terres du juge G.S. Proctor, donc un noble de la place, le cigare volant frappe le moulin à vent. Il explose en laissant échapper toutes sortes de débris de type métallique. Et là, lorsque les gens accourent sur place, on trouve parmi les débris le corps d'un homme. L'article que tu as entre les mains ne nous donne pas beaucoup de détails sur l'homme. On nous dit qu'il était brûlé et défiguré, mais suffisamment d'informations pour s'apercevoir qu'il s'agissait sans aucun doute d'un étranger. On conclut qu'il s'agit d'un martien. Et il sera inhumé au cimetière d'Aurora en suivant les rites catholiques. Et éventuellement, les débris de la machine seront jetés dans un puits sur le terrain de M. Proctor. Et depuis, ben évidemment, il y avait une pierre tombale qui avait été mise dans le cimetière d'Aurora. La pierre tombale originale a été volée en 1973. La ville d'Aurora en a fait replacer une autre en 2012, qui a été volée en 2014. Et aujourd'hui, pour y être allé, quand tu arrives dans le cimetière d'Aurora, il y a une espèce de grosse pierre qui est dans le cimetière. Là, on se dit, on ne volera pas la pierre quand même. Et cette pierre-là marque l'endroit où la fameuse, le martien d'Aurora aurait été enterré.
Ça dit dans l'article, il dit, selon l'opinion d'un officiel américain...
De ce jeune martien.
Oui, il est natif de la planète Mars. Et c'était écrit, il avait des papiers sur lui dans des hiéroglyphes incompréhensibles.
Incompréhensibles, voilà. Donc, on fouille le bonhomme qui a visiblement un uniforme et dans ses poches, on trouve des papiers. Et bon, on sait. Tout ça pour te dire que c'est devenu une histoire extraordinaire. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les grands journaux, que ce soit les journaux de Dallas ou de Fort Worth, n'avaient pas de journalistes sur place. Donc, on recevait des lettres des gens
qui racontaient
des histoires. Ah. Et c'était la porte ouverte à tous les canulars. Et probablement que l'affaire d'Aurora est un bon canular de cette époque, comme il y en avait de nombreux.
Christian Page, toujours un plaisir. Ça on te retrouve plaisir. Dimanche prochain.
Oui, absolument.
Salut bien, 11h32. On s'en va encore au Mexique dans quelques minutes parler à des gens qui voyagent et qui passeront quelques temps pour aller découvrir à bord de leur autobus modifié l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud également. Ils veulent se rendre jusqu'à la pointe sud des Amériques.